Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Dans un rapport publié à la mi-mai, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, révèle que l'alcool a tué 3 300 000 personnes dans le monde en 2012, soit un décès toutes les 10 secondes. C'est plus que le sida et la tuberculose réunis. Les hommes sont plutôt plus touchés que les femmes. La consommation d'alcool par habitant dans la région européenne de l'OMS est la plus élevée au monde. La Russie et les pays d'Europe de l'Est arrivent en tête, des pays où on boit le plus. La Chine et l'Inde sont ceux où la consommation a le plus augmenté ces dernières années. Alors, quelles sont les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sur la santé? Comment vaincre une dépendance à l'alcool? Quels sont les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur William Lovenstein. Il est addictologue, président de l'association SOS Addiction. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez envie de lui poser des questions ou d'apporter un témoignage, nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Samuel Mampuza, qui est neuropsychiatre en République démocratique du Congo, avec également Adèle Cordonnier, qui a participé à un congrès des apprentis chercheurs sur l'alcool avec l'INSERM. Et comme tous les jeudis, bien sûr, on retrouvera le docteur Catherine Solano, qui aujourd'hui nous parlera des mauvaises solutions contre l'éjaculation précoce.
RFI.
Attends, moi je sais boire. C'est pas comme Michel. Lui, il a l'alcool mauvais.
Non, bon, ça va, hein, je connais mes limites, hein. Je contrôle, contrairement à Marc.
Moi? Non, mais Benoît. Ah bah, lui, il boit vraiment trop.
Moi, je bois pas tous les jours. C'est pas comme... Bernard.
Non. Entre nous, celui qui a un vrai problème avec l'alcool, c'est Christian.
On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop.
Docteur William Lovenstein, c'est une des publicités contre l'alcool qui a tourné pendant quelques temps. Vous la connaissez, ouais. Avec une question finalement essentielle que se pose tout le monde, c'est à partir de quand on peut parler d'alcoolisme? On a toujours l'impression que c'est l'autre et jamais soi.
Oui, d'abord on évite de parler d'alcoolisme, qui est un terme un peu ancien et péjoratif.
Vous dites quoi?
Éventuellement, alcoolodépendance, qui est déjà aussi dépassée, mais surtout, bon, ce sont les complications... Avec l'alcool, avec la consommation d'alcool, avec les abus d'alcool, et de ce fait, j'ai oublié votre question initiale.
Eh ben, c'est de savoir voilà. à partir de quand on parle. Donc, alors vous me dites que l'alcoolisme, c'est pas le bon
voilà,
terme, d'une consommation
de troubles,
excessive
voilà,
d'alcool.
Voilà, de troubles liés à un abus d'alcool. Et ça peut être comme pour toutes les addictions, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir. Quand vouloir arrêter, ne permet pas de pouvoir arrêter. C'est également quand savoir n'aide pas plus à pouvoir changer son comportement. Savoir que c'est très mauvais pour son couple, pour son travail, pour sa cirrhose, n'aide pas plus à pouvoir modifier son comportement. Et surtout quand on arrête avec l'alcool et quand on arrête sans être médicalement aidé, il y a un risque terrible du sevrage. C'est avec les tranquillisants le seul sevrage capable de tuer. Donc attention aux arrêts brutaux, parce que ça peut donner... Vous savez, dans tous les films, il y avait les déliriums très minces avec les éléphants roses et puis plein de bestioles sympathiques, parfois. Mais surtout des états de mal épileptiques, des états de mal commissiaux, parce que le sevrage d'alcool est extraordinairement violent. Donc attention, quand vous voulez arrêter de boire, s'il y a vraiment une consommation chronique ancienne, ne le faites pas tout seul, ne le faites pas sans médicaments, sans vitamine B1-B6 et sans 3 litres de flotte au moins par jour, parce que sinon vous risquez de griller vos neurones et ça serait quand même dommage de vouloir arrêter pour ne plus être en capacité de vivre après.
Ces troubles liés à une consommation excessive d'alcool, est-ce que ça peut être considéré comme une maladie ?
Alors, au stade de dépendance, très clairement, oui, comme toutes les addictions, si on garde le vieux feuilleton des addictions, usage, abus, dépendance, autant l'usage et l'abus sont souvent des problèmes, on va dire, culturels, politiques, sociaux, environnementaux, autant la dépendance, ça y est, on a perdu, comme dans la dépression, ou comme dans la schizophrénie, ou comme dans l'épilepsie, toute possibilité de modifier son comportement cellulaire. On a un dysfonctionnement cellulaire à ce point important que la volonté, sa propre volonté, ne suffit plus. Donc on peut parler là de maladie cérébrale fonctionnelle est fort heureusement réversible quand elle est traitée, et surtout quand elle est traitée le plus tôt possible.
Ça veut dire qu'on voit ce qui se passe dans le cerveau, on a commencé à savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi certains justement devenaient dépendants et pas d'autres.
Alors c'est la grande question de l'addictologie, et elle doit être abordée à la fois sur le plan de la vulnérabilité neurobiochimique, c'est-à-dire les caractéristiques dans notre cerveau au niveau quasiment cellulaire et moléculaire, mais aussi les caractéristiques, on va dire, sociétales et environnementales. Par exemple, la Fédération Addiction en France travaille très très bien sur les chemins de l'alcool. Finalement, qu'est-ce qui amène quelqu'un à passer de l'usage à l'abus et de l'abus à la dépendance? Et là, on a quand même, je parle pour la France, pardon pour l'égocentrisme français en la circonstance, de drôles d'habitudes, parce que c'est quand même la drogue, l'alcool, qui est initiée par les parents. Ce sont les parents qui font boire les enfants pour qu'ils participent à la fête en mettant 30 élèves dans la coupe de champagne. Il n'y a pas de raison que le petit n'en profite pas. Mais il n'y a pas urgence à droguer ses mômes. Il faut rappeler ça aux parents. On parle toujours des problèmes d'alcool avec les jeunes, mais si les parents pouvaient avoir un peu moins de bouteilles chez eux, raconter un peu moins de conneries sur les troisièmes mi-temps ou sur leur service militaire de jadis, et puis montrer l'exemple en disant « attention ». Un cerveau, ça encaisse mal toutes les drogues, que ça soit le cannabis ou l'alcool. Donc, éventuellement, quand on aura 18 ans, on en reparlera, mais d'ici là, sois
gentil.
C'est pas la
peine. Vous avez envie d'intervenir, docteur Solano?
C'est ce que j'allais vous demander, parce que moi, j'ai dit à mes enfants, je vous interdis de boire une goutte d'alcool avant 18 ans. Bon, mais je sais
qu'ils vont...
Bah, plus ou moins, quand même. Et parce que je sais que quand on le dit, c'est efficace quand même, même si c'est pas du 100%.
Je crois qu'il y a une parole parentale qu'il faut restaurer. Alors, on est d'accord que dans la plupart des drogues, surtout dans la société ou les sociétés actuelles, interdire n'interdit plus rien. Ou presque plus rien. C'est un des problèmes, on va dire, sociologiques. Mais que les enfants sachent que les parents ne sont pas les complices qui, après, vont s'inquiéter parce qu'ils vont dépasser eux-mêmes ce que les parents avaient raconté avec fierté. Ce que les parents, ils racontent généralement leurs abus en se marrant avec leurs copains, voire avec leur enfant. Ils en sont fiers. Il y a quelque chose qui est délirant dans l'histoire. Ils initient les enfants et en plus, ils sont fiers de ces abus. Et après, quand on parle des comas éthyliques, et on ferait mieux de parler des overdoses d'alcool, ça serait plus clair pour tout le monde, eh ben, tout le monde s'étonne et s'affole. Mais quand vous avez dans une famille quelqu'un qui raconte sa troisième mi-temps ou le pot d'entreprise qui a mal tourné ou quand il a fait son initiation dans sa boîte d'HEC ou d'ailleurs... Voilà de quoi on parle. On délire en France sur le sujet, quoi. C'est devenu anormal, non seulement de pas boire, déjà, d'alcool, mais en plus, c'est presque devenu anormal de pas avoir vécu l'ivresse.
Et donc si des parents ont des enfants de 14, 15 ans, elles les font goûter un petit peu de vin et tout, c'est pas une bonne idée. Je dis ça parce que j'ai plein d'amis qui font ça et je suis choquée à chaque fois.
Si c'est 14, 15 ans, c'est déjà relativement rassurant parce que ce dont je vous parle et qui me vaut parfois quelques conflits comme ça quand je vois ça dans des dîners ou des réunions, voire des communions de je sais pas quoi, ça peut être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et quand je vois un parent faire boire l'enfant, juste tremper les lèvres dans la coupe d'alcool ou de champagne, peu importe. Et je dis, mais pourquoi dans ces cas-là, vous lui proposez pas aussi une petite ligne de coke pour qu'il participe à la fête? Vous pensez que généralement, je reste pas trop longtemps, ça fait pas sourire.
Ça fait des ans. On va voir tout au long de cette émission comment sortir de cette dépendance à l'alcool. Pauline Maucor est allée rencontrer Fabrice Bénichou, qui est ancien champion du monde de boxe. En 2006, à 44 ans, il arrête la boxe au niveau professionnel, commence à boire de grandes quantités d'alcool. Il vous rencontre à ce moment-là, hein, docteur Lovenstein, il y a 2 ans, en fait, à la clinique Montevideo, où il est amené par des policiers suite à une tentative de suicide. Il vient de publier Mon dernier combat aux éditions du Cherche Midi.
J'ai eu des moments dans mes grandes chutes de dépression, recours à l'alcool, effectivement. J'avais commencé à boire d'abord pour me saouler, ensuite par habitude.
À quel âge vous avez commencé ?
43, 44.
Et ça correspondait au moment où vous avez arrêté la boxe ?
Oui, à peu près, oui. Bien sûr, il y a une cause à effet à tout ça, bien évidemment. C'était pour des raisons émotionnelles, psychologiques, problèmes familiaux, puis savoir comment faire, qui je suis, où je vais, comment je fais. Jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver un peu un guide dans le docteur Lovenstein, qui m'a permis de comprendre où était mon mal. Il a mis le doigt dessus, il a trouvé qu'est-ce qu'il fallait me donner pour me relever. Il savait bien qu'il y avait d'autres soucis derrière. J'étais très conscient de mon état et très conscient aussi de cette envie de m'en sortir.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment le fait que vous arrêtiez la boxe à un niveau professionnel, ça vous a précipité un peu dans l'alcoolisme?
Quand on arrête le sport de haut niveau, on appelle ça la petite mort. Car on a de telles émotions, on produit tellement d'endorphines, on produit tellement d'adrénaline. Toutes ces substances que notre corps a besoin, c'est une drogue qu'on reçoit, on n'a plus du jour au lendemain, on doit les compenser par quelque chose d'autre. Le plus on a pété l'arrêt en soi-même de la boxe, oui, c'est l'arrêt, mais c'est surtout la séparation par la suite avec ma femme, mon fils et tout à l'époque. Et le tout accumulé, je me suis réfugié derrière ce qu'on appelle la belle bouteille de Jack, qui m'a permis de tenir le coup, mais combien de temps? Je buvais caché, je voulais pas me montrer, j'avais honte de sortir. Tout en me disant qu'il faut que j'arrête. Oui, il faut que j'arrête, mais je prenais plaisir. Alors bon, j'ai pris un substitut, pétard, en me disant, voilà, ça a peut-être calmé mes angoisses. Effectivement, ça a calmé, mais je buvais, je fumais en même temps. Alors à un moment, j'ai dit, stop, basta, j'arrête de boire.
Est-ce que vous avez toujours eu conscience d'avoir un problème avec l'alcool, ou est-ce qu'il y a un moment où vous en avez pris conscience particulièrement?
Ah non, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. Mon problème avec l'alcool était ponctuel. C'était pas une addiction. C'était une substitution, plutôt. Par exemple, pouvoir prendre mon gamin dans les bras, l'embrasser, dire « je t'aime, papa est là, il est en train de réussir sa vie, on est en train de faire quelque chose de grand », ça vaut tout l'alcool du monde. Je touche l'alcool quand je ne les vois plus. La destruction vient surtout quand ça va mal.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez consommer de l'alcool de manière raisonnable?
C'est ce que je fais des fois, des soirées, je bois un verre de vin. Je le fais avec plaisir de le faire. De toute façon, je ne bois plus si je sais que je vais mal. C'est une réaction d'autodéfense que j'ai, de me dire « non, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, tu vas t'enfoncer ».
Mais alors, comment vous avez remplacé l'alcool quand ça ne va pas ?
La meilleure des moyens qu'il puisse y avoir, le sport, du yoga, des techniques de respiration, de la relaxation, de l'automotivation, de l'autosuggestion. Putain, c'est génial.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des méfaits de l'excès d'alcool pour la santé avec le docteur William Lovenstein. J'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Fabrice Benichou, qui dit d'abord, je trouve ça génial de voir un champion du monde de boxe qui fait du yoga. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il dit plusieurs choses intéressantes. Une première, beaucoup. C'est quand même une accumulation de difficultés qui fait qu'à un moment, on plonge dans un problème avec l'alcool.
Oui, et avec en plus, à travers le Fabrice, et je crois qu'il le dit très très bien dans son livre « Mon dernier combat », comment ses qualités, de sensibilité, d'éponge par rapport aux autres, en plus du milieu très particulier de la boxe quand même, faut déjà imaginer ce que c'est que de se retrouver sur un ring entre les cordes et devenir trois fois champion du monde, et d'arrêter ça du jour au lendemain. C'est un sevrage, le sevrage du sport intensif qui est violent. Et Fabrice Benichou a des qualités qui font vulnérabilité pour ses consommations. Donc l'alcool a surtout fonctionné comme une automédication. Il a essayé de trouver dans l'alcool, à certaines périodes de sa vie après l'arrêt de sa carrière sportive,
une compensation,
un peu de soulagement. Notre cerveau, il nous demande... de tout faire pour aller mieux, même si ce sont des mauvaises solutions qu'on le sait. Notre cerveau, il n'est pas si évolué que ça chez tout le règne humain. C'est-à-dire que entre un petit soulagement immédiat et un grand risque futur, que ça soit l'alcool, une cigarette ou autre chose, il nous fera choisir le petit soulagement immédiat. Notre grand cerveau intelligent n'est pas futé sur le sujet des addictions.
Alors, afin de sensibiliser les jeunes aux questions d'alcoolisme, pendant toute l'année, 33 collégiens et lycéens ont été accueillis dans des laboratoires INSERM de neurosciences spécialisées dans l'étude des addictions. On a au téléphone Adèle Cordonnier qui a participé au congrès de ses apprentis chercheurs sur l'alcool avec l'INSERM. Adèle Cordonnier, bonjour.
Bonjour.
Qu'avez-vous appris concrètement sur les addictions, en l'occurrence plus particulièrement sur l'alcool ?
Ça m'a appris qu'il y a une différence de sensibilité à l'alcool liée chez les adolescents. et surtout entre les garçons et les filles.
Et en quoi ça a changé votre, à la fois votre regard sur la question de l'alcool, mais je dirais aussi votre pratique?
Mon regard, parce que je savais pas, on savait pas tout ça en fait, d'un niveau scientifique. On savait pas qu'au niveau du cerveau, la consommation d'alcool diffère chez les filles, chez les garçons, et chez les ados et chez les adultes. Et pour ma consommation, ça m'a pas appris grand-chose, parce que je consomme pas beaucoup, mais ça m'a surtout appris qu'il faut pas en abuser, surtout à l'adolescent, parce qu'on ressent moins les effets. Et du coup, on peut pas être... On ne comprend pas tous les effets négatifs de l'alcool.
Entre autres sur les neurones. Adèle Cordonnier, je crois que vous avez 18 ans, hein, si je ne me trompe. On sait que vous êtes dans une génération qui peut faire des fêtes avec une forte consommation d'alcool. Alors du coup, vous faites quoi, vous, pendant ces fêtes? Et vous dites quoi à vos amis?
En fait, j'ai pas trop des amis trop fêtards, mais justement, je pense que grâce à ce stage... Si j'ai une soirée à venir, je pense que je pourrais aussi les sensibiliser et leur dire que justement on peut pas sentir tout immédiatement les effets négatifs de l'alcool, mais qu'à long terme ça peut entraîner des effets irréversibles sur le cerveau.
Merci beaucoup Adèle Cordonnier, c'est vraiment intéressant ce que vous racontez. Docteur William Lovenstein, ouais. Une réaction. En fait, les adolescents et les jeunes ne savent pas ce
mais
genre de...
On est un pays extraordinaire parce qu'on est quand même le pays qui boit le plus au monde, à peu de choses près.
Alors, hein, les Russes nous battent, hein, maintenant.
Voilà, maintenant, on a quand même tout le pouvoir de Poutine qui s'exprime dans tous les domaines. Mais, et c'est comme s'il y avait une méconnaissance, un obscurantisme sur des fondamentaux. Le point fondamental qui est rappelé, c'est que le cerveau, d'une fragilité extraordinaire dans sa construction, est l'organe qui met le plus de temps à maturer. Vous vous rendez compte, il est mature à 25 ans, pas avant. Et donc, si on tape dessus, que ça soit à coup d'alcool, à coup de cannabis, à coup de cocaïne, à coup de nouvelles drogues de synthèse... Évidemment qu'on va modifier l'évolution de façon tragique.
Et on a plus de risque de devenir dépendant.
Pour un certain nombre des adolescents. C'est là l'inégalité qu'il va falloir expliquer. D'abord, je dirais le thème de cette année de SOS Addiction, qu'on peut retrouver sur sos-addiction.fr, notre association.
On a mis le site internet sur notre site et sur notre page Facebook.
C'est fondamental, c'est comment, on en parlait tout à l'heure, retarder... l'âge du premier usage, parce que ça va protéger ce cerveau d'adolescent qui commence à se plisser, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, et que l'alcool, le cannabis et les autres drogues vont finalement déplisser dans le mauvais sens du terme là. Donc comment on retarde ça avec les inégalités d'un individu à l'autre qui plus est? Et c'est là où il faut expliquer les choses en France, où finalement on a toujours eu l'idée qu'on était un peu résistant à l'alcool, etc. Pour 15% d'entre nous, ça va être comme une injustice, comme un processus d'allergie.
Et on sait pas
l'alcool
qui...
va être une cata, et on sait pas à l'heure actuelle. Voilà, dire vous allez être allergique à l'alcool ou au cannabis, peu importe, mais de dire attention, ça va vous fusiller votre tête, même si 90% des copains à côté ont pas de problème ou éventuellement, voilà, se réveillent avec la gueule de bois, vous allez risquer vraiment de modifier votre fonctionnement cérébral. C'est injuste que ça soit pour le cannabis si tout le monde en fume ou pour l'alcool si tout le monde en boit, mais c'est aussi injuste qu'une maladie, qu'une allergie, qu'une épilepsie.
Qu'un cancer ou autre. Merci beaucoup Adèle Cordonnier. Je rappelle que vous avez participé à ce congrès des apprentis chercheurs sur l'alcool avec l'INSEE. On comprend bien dans ce que vous dites que finalement il y a une dépendance qui serait presque génétique, mais il y a aussi une influence de facteurs qui fait qu'il y a un moment où on est plus fragile dans sa vie.
Voilà, comme d'habitude pour les addictions, c'est multifactoriel. Et qu'on soit clair, hein, s'il y a une vulnérabilité, c'est pas celle qui est due à la transmission du gène de l'alcool. Comme le disait un grand généticien, la génétique, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, notre cerveau a une telle neuroplasticité, une telle capacité à s'adapter, qu'on est très très libre par rapport à notre destin, sauf quand il y a des maladies gravissimes. Mais,
et qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, de tomber dans l'alcool. Si vous voulez bien, on se retrouve dans 3 minutes. Je suis désolée de vous couper la parole, mais il y a les informations, on se retrouve juste après les infos.
Priorité info, alors.